vous êtes bien sur la radio du Collège de Crussol. Aujourd'hui, les membres du Club Animal vont vous présenter des chroniques sur les animaux, comme la stérilisation, le chat noir, le cirque et bien plus encore. Mais avant, Fanny, Cléa, Pernelle et Capucine vont vous présenter le club et les actions menées.
Dans notre collège de Crussol, nous avons un club de protection animale. Nous avons organisé une collecte de couvertures et de serviettes. Nous avons aussi organisé le marché de Noël. Pendant toute l'année, les élèves ont fabriqué des objets de Noël avec des objets recyclés, comme des bâtons de glace, du bois et des pommes de pin, etc. Dis-moi Fanny, comment fonctionne la collecte de couvertures ?
Dans notre collège, nous avons installé des caisses pour que les élèves donnent des couvertures dont ils ne se servent plus. Les couvertures vont être données à l'ASPA pour protéger les chiens et les chats de l'humidité et du froid.
Dis-moi Cléa, comment fonctionne le marché de Noël ?
Le marché de Noël a été créé par des élèves du club avec l'argent que nous avons récolté du marché. L'argent est allé à l'Hirondelle, une association qui récupère et soigne les animaux sauvages.
Dis-moi Capucine, comment fonctionne le club de protection animale ?
Le club protection animale se rassemble le mardi midi pour mener des actions, par exemple faire des affiches et dans les semaines qui viennent organiser la journée sans souffrance.
Et maintenant, Elsa et Soline vont vous raconter les actions menées l'an passé par le club.
Bonjour, nous sommes le club de protection animale. Nous sommes 30 élèves qui nous réunissons tous les mardis entre midi et 2 et nous menons des actions au sein de notre collège depuis déjà 8 ans. Madame Rioubon, professeure d'histoire géo, est la créatrice de ce club. Tout au long de l'année, nous effectuons des actions, comme un marché de Noël, où nous avons vendu des objets confectionnés à partir de la récupération au profit de l'association L'Hirondelle. L'année dernière, nous avons sensibilisé des élèves de 5e du collège Saint-Victor. Nous nous sommes rendus dans leur classe et leur avons parlé de la stérilisation, d'identification, des hérissons, des renards et des cirques avec animaux, et nous avons fait ensuite un quiz.
C'était très stressant, mais aussi très sympa de rencontrer d'autres collégiens. En tout cas, ils se sont montrés intéressés. Nous avons aussi organisé une collecte de couvertures au sein de notre collège. Cette action a servi à collecter des couvertures pour le refuge ASPA, car les animaux de ce refuge vivent dehors et en hiver, les animaux ont froid. Leurs couvertures sont humides, donc peu agréables pour les animaux. Ces couvertures leur ont servi à changer leur ancienne couverture humide et peu agréable. Merci de nous avoir écoutés.
Merci les filles. Et maintenant, nous allons passer à l'interview de Madame Rioubon par Lola et Emma.
Bonjour. Pourquoi avez-vous créé ce club ?
Alors, j'ai créé ce club avant tout pour sensibiliser les élèves sur le fait que l'animal est un être vivant doué de sensibilité. C'est ce que dit le Code civil depuis la loi de 2015. J'en ai marre aussi que face à la souffrance animale, tout le monde s'en fout et personne ne réagit. Ou alors, on s'entend dire « ce n'est qu'un animal ». Bah non, ce n'est pas qu'un animal, c'est un être vivant. Ce qui m'a aussi confortée dans cette démarche, c'est parfois des réflexions d'élèves, notamment il y a quelques années, un élève de 4e à propos des cirques qui a dit oh, « bah, de toute façon, c'est pas grave, ils sont nourris, tout va bien ». Ben non, un animal dans un cirque, oui, il est nourri, mais il passe sa vie, toute sa vie dans une cage. Et donc, c'est pas pour moi la vie que doit avoir un animal, notamment si c'est un tigre. Hein. Un tigre, il a besoin de 100 km² pour se dégourdir les pattes et pas d'une cage de 10 m². Donc, l'idée, c'est vraiment de faire évoluer les mentalités.
Constatez-vous tout de même une évolution positive des mentalités ?
Alors oui, on voit quand même que les mentalités sont en train de changer. Déjà pour les cirques, hein, y a des gens qui refusent d'aller dans des cirques avec animaux. On voit aussi tout ce qui est parc aquatique. Il y a des personnes qui sont sensibles aussi aux conditions très difficiles dans lesquelles vivent ces animaux. Et puis, on le voit aussi sur l'élevage intensif, c'est en train de changer. Il y a des gens qui refusent de manger de la viande qui proviennent d'animaux élevés de manière intensive, à savoir des animaux qui passent leur vie dans une cage. On peut penser aux cochons, par exemple, qui ne voient jamais la lumière du jour, qui ne peuvent pas se dégourdir les pattes, qui sont sur des grilles en métal. C'est véritablement un enfer. Et ça, tout le monde s'en fout. Et du coup, bah, l'idée aussi du club, c'est de faire évoluer les mentalités et de faire prendre conscience de ça aux gens.
Y a-t-il encore des réticences à évoluer ?
Donc oui, il y a des réticences à évoluer, notamment pour la corrida. On voit qu'il y a encore des gens qui considère cela comme un spectacle, alors que c'est une mise à mort. Ensuite, on voit aussi, par exemple, pour les spectacles de fauconnerie. J'ai eu l'occasion d'assister l'été passé à un spectacle de fauconnerie en région parisienne. Et en fait, on se rend compte que les oiseaux passent leur vie dans une cage. Et en fait, juste pendant le spectacle, ils sortent les animaux de la cage. Donc, ils leur font faire le spectacle et après, ils les ramènent dans la cage. Et j'étais avec une amie. Après, on est allé voir ces oiseaux. Et l'amie dit à la fille qui s'occupait d'eux, mais vous, ils sont dans une petite cage. Quand il n'y a plus le spectacle, vous les mettez dans une grande cage. Et là, la fille la regarde et dit, bah non, ils restent dans une petite cage. Enfin, voilà. Donc, elle était persuadée. Elle a dit, de toute façon, nous, on aime nos animaux. Ils sont persuadés qu'ils aiment leurs animaux. Alors oui, ils les aiment. Mais pour l'animal, ce n'est pas une vie, encore une fois, de rester dans une cage.
Avez-vous mené d'autres actions en faveur des animaux ?
Alors oui, ça fait 20 ans que j'œuvre pour la protection animale. J'ai été dans le refuge de Romans où j'ai promené des chiens, notamment les mercredis après-midi. On promenait les chiens parce que sinon, là aussi, ils passent leur vie dans une cage. Donc on les promène pour qu'ils se dégourdissent les pattes. Et puis j'ai fait partie d'une association de protection animale qui s'appelle l'école du chat, dont le but était de recueillir des animaux et notamment des chats errants et de les faire adopter. Voilà, donc ça m'a pris beaucoup d'énergie et je tiens à dire que des fois j'ai arrêté parce que c'est très prenant. Les gens appellent à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, un dimanche, ils ont trouvé un chat, ils veulent absolument qu'on les en débarrasse. Donc il faut trouver des solutions tout de suite. Ou alors des gens qui veulent adopter sans vraiment se rendre compte de ce que c'est adopter un animal. Une fois, j'ai une étudiante qui voulait absolument adopter un chat et elle n'avait pas de moyens. Donc je lui dis, mais comment vous allez faire si l'animal il est malade ? Si l'animal il est malade, vous l'amenez chez le véto, ça coûte 200-300 euros. Elle m'a dit, oh, je sais pas, je verrai. Bah non, on ne voit pas, donc je vais refuser l'adoption. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils prennent des animaux et puis après, bah, ils se rendent compte que l'animal, il a besoin de soins, il a besoin d'attention. Et puis, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas s'en occuper et après, l'animal finit abandonné.
Y a-t-il des histoires qui vous ont marqué ? Avez-vous même sauvé des animaux ?
Alors oui, il y a une histoire qui m'a particulièrement marquée lorsque j'étais à l'école du chat de Valence. C'est pour dire que la maltraitance, elle est là, elle est à Saint-Péret, elle est à Valence. On nous avait appelé pour un monsieur qui habitait en face de la gare de Valence. Et en fait, il avait des animaux. Et notamment son chien, il a laissé crever de faim dans la cave, en fait. On se retrouvait le chien mort. Voilà. Donc, parce qu'il ne s'en occupait pas. Et les chats, il les battait. Voilà. Et donc, on nous a demandé d'aller là-bas. Donc, on avait peur avec l'autre bénévole, parce qu'apparemment, il était un peu fou. Et bon, après, on n'a pas pu intervenir parce que le type avait déménagé, était parti ailleurs. Mais cette histoire m'a marquée. On parle toujours de la maltraitance, je ne sais où. En fait, la maltraitance, il y a aussi des animaux qui se font maltraiter à Saint-Péret ou à Valence. Et puis l'autre histoire, c'est celle de mon chat Samy, qui est maintenant décédé. C'est un chat que j'ai recueilli dans un refuge. Il est arrivé avec un œil en moins parce que la personne s'en était pas occupée. Donc son œil s'était infecté. Et donc je l'ai recueilli et je l'ai amené chez moi. Et en fait, ce chat a dû vivre je ne sais pas quoi, des horreurs. Et en fait, je l'ai ramené chez moi et il est resté un mois prostré dans ma cuisine. Prostré, il ne bougeait pas. Il était tellement terrorisé, je ne sais pas ce qui lui était arrivé, que j'ai cru même à un moment qu'il allait mourir, quoi. Il allait se laisser mourir. Et en fait, au bout d'un mois, il a enfin commencé à bouger. Enfin, et après, c'est devenu un amour de chat. Mais tout ça pour dire que l'animal, il est doué de sensibilité, d'émotion. Et ce chat, il a failli se laisser mourir tellement ce qu'il a vécu l'avait traumatisé. Donc oui, les animaux souffrent et éprouvent des émotions.
Les animaux ont-ils toujours été considérés de la même façon dans l'histoire ?
Alors non, justement, il y a eu plusieurs époques, et notamment au XVIIe siècle, un philosophe que je n'apprécie pas beaucoup, qui s'appelle Descartes, qui a osé dire que les animaux étaient des machines, qui n'éprouvaient rien, qui ne souffraient pas, et qu'on pouvait les taper, ça n'avait aucune importance, de toute façon, c'était juste une réaction nerveuse. Heureusement, d'autres philosophes au XVIIIe siècle, notamment Rousseau, eux ont milité pour que l'homme cesse de maltraiter les animaux. Et ça a été un des premiers à dire qu'on a des devoirs à l'égard des animaux qui sont des êtres sensibles.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci les filles et merci Madame Riobon d'avoir répondu aux questions et de nous avoir raconté votre histoire.
Bonjour, nous sommes les élèves du club animal et nous allons interviewer Madame Carivel qui est bénévole de l'association L'Hirondelle. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que l'association L'Hirondelle ?
Bonjour. Alors, l'association L'Hirondelle est un centre de soins apporté aux animaux sauvages blessés. Et elle a été créée en 1998. Et elle est basée, son siège social est à Saint-Forgeux dans le Rhône. Et depuis l'année dernière, il existe également un deuxième centre de soins à Chalencon dans la Drôme.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être bénévole dans cette association ?
Alors en fait, j'ai longtemps été bénévole dans une association qui s'occupait d'adoption de chats libres. Et puis en 2020, lorsque je suis partie à la retraite, c'était aussi la période du confinement, la période du Covid. Et j'ai été destinataire d'un appel de la Ligue de protection des oiseaux qui relayait un appel à bénévoles pour le compte de l'Hirondelle. Et j'ai trouvé que c'était pas mal de s'occuper d'animaux sauvages plutôt que d'animaux domestiques.
Merci. Que faites-vous en tant que bénévole au sein de l'Hirondelle ?
Alors, je suis ce qu'on appelle une récupératrice, bénévole récupératrice, c'est-à-dire que mon rôle consiste à récupérer des animaux sauvages blessés auprès des gens qui les ont découverts. Les personnes qui les ont découverts, on les appelle les découvreurs. Et l'Hirondelle me demande de me mettre en contact avec les découvreurs pour récupérer ces animaux. Et c'est un système de relais. Donc, lorsque je récupère un animal, je l'amène jusqu'à un autre point où un autre bénévole va le récupérer et ainsi de suite pour le conduire jusqu'à Saint-Forgeux ou à Chalencon.
Est-ce que vous avez une histoire marquante à nous raconter ?
Alors, il y en aurait beaucoup. Je pense à l'histoire de petits marcassins orphelins qu'on récupère régulièrement parce que leur maman a été tuée. Et donc, il y a eu une fois où j'ai récupéré un marcassin qu'il a fallu biberonner parce qu'il n'était pas encore sevré. Il était chez moi en attendant que d'autres bénévoles puissent le récupérer. Il a fallu le biberonner. Et ce qui était très, très drôle, c'est qu'il avait la taille d'un chat et que mes chats en avaient très peur parce qu'il faisait du bruit avec ses sabots et qu'il grognait.
Quand a été fondée l'association ?
Alors l'association a été fondée en 1998 et elle résulte de la fusion de deux associations. Une qui était à Saint-Forgeux, une autre qui était à Cré. Donc Saint-Forgeux, c'est dans le Rhône, Cré, c'est dans la Drôme. Une des associations ne s'occupait que des oiseaux blessés. Et donc la fusion de ces deux associations a donné l'Hirondelle qui soigne à la fois les oiseaux et les mammifères. 80% d'oiseaux et 20% environ de mammifères, mais uniquement des animaux sauvages.
Bonjour Madame Fabre, êtes-vous professeure de français au collège de Crussol depuis combien de temps ?
Alors je suis effectivement professeure de français au collège depuis 13 ans et pas au collège depuis beaucoup plus longtemps.
Comment s'appelle votre chat ?
Alors il s'appelle Jude, mais moi je l'appelle mon chat.
Et comment l'avez-vous adopté ?
Alors je l'ai adopté grâce à Madame Rioubon. Parce qu'elle faisait partie d'une association qui s'appelle l'École du chat. Et à cette époque-là, elle avait deux petits chatons qui étaient abandonnés et qu'il fallait qu'elle place dans les familles d'accueil. Donc nous, on en a pris un et l'autre a été pris par une autre famille.
Quel âge a-t-il ?
Oh là, écoute, alors maintenant, il doit avoir 8 ans à peu près.
À quoi ouais. ressemble-t-il ?
C'est un chat européen, tu sais, les chats tigrés.
Décrivez-le-nous.
Alors, oui, c'est sérieux les questions. Hein. Alors, il est donc tigré et il a des grands yeux verts et il est très inquiet. C'est un chat qui a très peur tout le temps, mais il est de plus en plus câlin.
Est-il identifié à la puce ou au tatouage ?
Il a un tatouage sur l'oreille.
Racontez-nous ce qui s'est passé.
Voilà, le tatouage a toute son importance, puisqu'en fait, on l'a perdu, notre chat. En mai, on est revenu un jour et on ne l'a pas retrouvé. Donc, on a attendu 3-4 jours, même une semaine, en se disant que bon, il allait revenir, qu'il était parti courir, et puis qu'il allait revenir, et en fait, il n'est jamais revenu. Donc, on était très tristes, on était très affectés par sa perte. Donc, on s'est juré qu'on n'aurait plus jamais de chat parce qu'on était très malheureux. On a jeté, enfin, on a donné tout ce qui nous restait comme nourriture, on a donné sa litière, on a tout donné et on s'est dit voilà, ça y est, on a trop souffert, on ne prend plus de chat. Et puis en juillet, Madame Rioubon m'a téléphoné en me disant au fait, il est où ton chat? Il va comment? Alors j'ai dit bah, tu sais, on ne l'a pas vu depuis mai, donc on imagine qu'il ne va pas très bien. Et donc, Madame Rioumon m'a dit, ben, moi, j'ai retrouvé ton chat, parce qu'on m'a appelé, on m'a dit qu'il y avait un chat errant qui se faisait nourrir là, à Saint-Péret. Et je suis allée le chercher, j'ai vu son tatouage, et ce petit tatouage m'a dit quelque chose. Il m'a bien semblé que c'était le tatouage de ton animal. Et j'ai vérifié, et effectivement, c'est ton animal. Donc, nous avons retrouvé ton chat. Donc on était en pleine période de vacances, on n'était pas sur place, donc on a attendu une semaine et puis on est allé récupérer notre chat et on était très heureux. Et il est maintenant avec nous et voilà, c'est cette histoire grâce au tatouage.
Okay.
C'est tout ?
Oui.
Ben voilà, donc en fait l'histoire c'est que grâce à ce tatouage, on a pu récupérer notre animal, notre petit chat qui... Le pauvre était errant, du coup, je pense qu'il était malheureux aussi. Et maintenant, il a sa maison et il est heureux. Enfin, j'espère.
Mais du coup, vous avez été très inquiet quand il est parti ?
Bah oui, comme quand tu perds ton propre animal, tu vois. Voilà. Donc, on était, oui, je te dis, on était très, très affectés, très malheureux.
Il s'est écoulé combien de temps quand vous l'avez perdu et quand vous l'avez retrouvé ?
Alors, on l'a perdu en mai et on l'a retrouvé en juillet. Et, ce qui est assez étonnant, c'est que moi, j'habite à Valence. Donc, le chat est parti de Valence et on l'a retrouvé ici à Saint-Péret. Donc, sur mon lieu de travail. Donc, on ne sait pas si... Il est venu tout seul sur mon lieu de travail. Enfin, c'est quand même assez étonnant. Il y avait plusieurs possibilités quand même pour que, bah, qu'il parte ailleurs. Et là, il est quand même revenu à Saint-Péret. Donc, on se demande si il n'était pas rentré dans ma voiture sans que je m'en aperçoive ou quelque chose comme ça. Parce que c'est étonnant qu'il soit arrivé à Saint-Péret alors que moi-même, je travaille à Saint-Péret.
Et donc, c'est grâce au tatouage que vous l'avez récupéré ?
Exactement. Exactement, parce que s'il n'avait pas eu de tatouage, personne n'aurait pu me le rapporter. Alors c'est étonnant que ce soit Madame Rioubon qui ait trouvé mon chat, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et s'il n'en avait pas eu ou s'il n'avait pas eu de puce, on n'aurait pas pu le retrouver.
C'est pour ça que c'est important de faire tatouer son animal.
Exactement.
Merci de votre interview.
Je vous en prie.
Alors maintenant, ça va être l'interview de Madame G. avec Lola et Louise.
Nous allons vous interviewer. Madame Huger, professeure d'art plastique et animatrice du club Animal.
Êtes-vous seule à organiser ce club ?
Alors, je suis avec Madame Rioubon, comme vous l'avez entendu précédemment. On est donc deux.
Pourquoi avez-vous décidé d'animer ce club ?
Alors, bah, tout simplement parce qu'on s'est rejoints, Madame Rioubon et moi-même, sur nos passions communes, déjà, nos intérêts communs, et aussi des valeurs communes, des valeurs comme, effectivement, essayer de protéger cet environnement animal qui est autour de nous, œuvrer pour la protection animale. On est toutes les deux bénévoles, dans des refuges ou des associations où on a été. Et donc, une volonté commune d'éduquer aussi, d'éducation par rapport à vous, les jeunes générations, qui, au collège, vous pouvez déjà donc, apprendre à œuvrer pour le bien-être animal. Œuvrer pour... C'est aussi vous montrer comment on peut agir lorsqu'on a des valeurs qui nous tiennent à cœur. Voilà, pas rester seulement dans son canapé ou devant sa télévision à dire « Oh oui, ça, c'est pas normal. » Mais du coup, peut-être essayer de trouver des solutions et essayer d'agir dans ce monde pour essayer de le rendre un peu meilleur.
Le club animal, est-il ouvert à tous les élèves ?
Bien sûr, il est ouvert à tous les élèves du collège.
Quel projet avez-vous à la fin de l'année ?
Alors, à la fin de l'année, c'est tout au long de l'année, hein, tous les projets qu'on a énumérés en amont. Donc, on a fait les petits objets de Noël. Hein, vous avez participé à la fabrication d'objets de Noël. On a vendu ces objets pour récolter des fonds pour différentes associations. On a la collecte de couverture. On a... qu'est-ce qu'on a, les filles, aidez-moi. On a la journée sans souffrance. On a la fabrication d'affiches, des affiches manuscrites par le biais de collages, de dessins, d'écritures. Des affiches numériques. Tout ça, c'est pour sensibiliser les... Voilà, et l'émission de radio, bien sûr. Et voilà, tout ça pour œuvrer, pour essayer de sensibiliser alors, les autres élèves du collège qui ne seraient pas forcément éveillés à tout ça, qui n'auraient pas conscience de tout ce qui se passe autour de nous au niveau de la protection animale. Et peut-être aussi pour être diffusé hors établissement. C'est-à-dire que vous-même, vous allez raconter à vos parents, vous allez raconter à vos familles, raconter à vos amis. Voilà, pour avoir une diffusion peut-être un peu plus large au niveau de l'extra-scolaire, on espère.
Ok. Organisez-vous des journées pour le club ? Si oui, comment ça se passe ?
Alors, des journées, quel sens ? La journée sans souffrance, tu veux parler ?
Par exemple ?
Alors, voilà, donc on va organiser une journée sans souffrance où, donc à la cantine, hein, on va proposer un menu végétarien. Et puis sinon, comme petite journée, nous, on va organiser une sortie pour aller visiter des refuges de la région. Donc voilà, ça va être une petite sortie un petit peu plus amusante pour vous, pour être au contact des animaux plus particulièrement et pour voir comment un refuge s'organise, comment ils font pour gérer tous ces animaux.
Merci de nous avoir écoutés.
Je vous en prie, les filles, avec
maintenant,
plaisir.
Maintenant, avec moi, Louise et Célia, on va vous présenter l'identification des animaux.
L'identification.
L'identification des animaux est obligatoire depuis 1999. Cela veut dire que l'on est obligé de tatouer ou pucer son animal.
Si vous perdez votre animal, on pourra le retrouver grâce aux coordonnées de sa puce ou de son tatouage.
L'ICAD, Société d'identification des carnivores domestiques, gère les documents d'identification de l'animal.
Il y a deux moyens d'identification.
Le tatouage. Le principe est d'inscrire 3 chiffres et 3 lettres dans l'oreille de l'animal.
Anesthésie générale, on profite souvent de la stérilisation de son animal pour le faire tatouer.
Cela ne fait donc pas mal à l'animal et présente l'avantage d'être immédiatement visible.
La puce électronique.
Rapide et sans douleur pour l'animal, l'identification par puce électronique se fait sans anesthésie par le vétérinaire qui l'implante sous la peau.
Elle se présente sous la forme d'un grain de riz et contient un code unique de 15 chiffres qui identifie votre animal.
Un lecteur spécifique que seul le vétérinaire ont est nécessaire pour la lire.
Changer de numéro de téléphone.
Après avoir mis la puce ou le tatouage, le vétérinaire contactera l'ICAD et quelques jours après, vous recevrez la carte d'identité de l'animal.
Si vous déménagez ou changez le numéro de téléphone, il faut prévenir l'ICAD pour qu'elle mette à vos jours vos coordonnées et puisse vous contacter si votre animal est retrouvé.
Un animal identifié égale une vie sauvée.
Si vous tenez à votre animal, identifiez-le. S'il se perd, on pourra vous le retrouver. Et s'il se fait attraper
par la fourrière, vous pourriez le récupérer. Alors qu'il n'est pas identifié, il peut se faire euthanasier au bout de 8 jours.
S'il est identifié et qu'il est retrouvé, on vous contactera.
En attendant, faites le tour de votre quartier, questionnez vos voisins pour savoir qu'ils l'ont aperçu.
Vous pouvez aussi mettre des affiches et mettre une annonce sur le Pet Alert pour signaler sa disparition. Présent sur Facebook, Pet Alert vous permet de mettre une ligne, une annonce concernant la disparition de votre félin.
Chaque département français possède sa propre page Pet Alert afin de faciliter les recherches et de concentrer les efforts.
Pour publier une annonce, rendez-vous sur le site de Pet Alert et cliquez sur « Publier une annonce ».
Renseignez le nom de votre animal, sa date et son lieu de disparition.
Précisez s'il est identifié par puce ou par tatouage. Donnez quelques informations sur son caractère. Et maintenant, Elsa, Enzo, Emma et Chloé, vous présentez la stérilisation.
Bonjour à tous et à tous. Nous allons vous parler de la stérilisation. Aujourd'hui, nous accueillons Lula, Chloé, Emma et Elsa. Lula, en quoi consiste la stérilisation ?
La stérilisation chirurgicale consiste au retrait des ovaires et ou de l'utérus de l'animal. Cette opération est effectuée par le vétérinaire, idéalement avant les premières chaleurs. Pour les chiens, aux alentours de 6 mois dans les petites races et vers 12 voire 18 mois dans les plus grandes. Pour les chats, c'est possible dès 4 mois chez la minette et 6 mois chez le mâle.
Chloé, pourquoi faut-il stériliser son animal ?
La principale raison de faire stériliser votre chat est bien sûr d'empêcher la reproduction en masse.
Mais pourquoi la reproduction est-elle un problème ?
Parce que cela peut aller très vite chez les chats. En moyenne, une chatte peut avoir des petits 2 à 3 fois par an et on compte entre 2 et 6 chatons par portée.
Emma, explique-nous les raisons comportementales.
Une chienne ou une minette non stérilisée subit des modifications de comportement. En période de chaleur, notamment les fugues, l'attrait des mâles, les pertes de sang, etc. La stérilisation permet de remédier à ces petits tracas comportementaux. Chez les chats, la castration permet de supprimer ou atténuer les marquages urinaires. Elle augmente également la durée de vie de l'animal en diminuant les risques liés au vagabondage et aux bagarres.
Elsa, explique-nous les raisons médicales.
La stérilisation prévient donc la formation de tumeurs des mamelles, de tumeurs de l'utérus et des ovaires. Cette solution est préférable à l'utilisation de la pilule contraceptive qui a tendance à multiplier le risque de tumeurs et d'infections utérines ou de diabète. Merci de nous avoir écoutés.
Merci les filles pour cette information. Et maintenant, nous allons passer à Mila, Manon et Maëlle sur les chats de rue.
Bonjour, nous allons vous présenter ce qu'est un chat des rues.
Les chats des rues sont des animaux qui vivent dans la nature. Ce sont souvent des chats abandonnés.
Comment se retrouvent-ils dans la rue, Manon ?
Ils peuvent se retrouver dans la rue pour différentes raisons. Par exemple, il peut être né dans la nature et du coup, il apprend à se défendre déjà petit. Ou le propriétaire du chat n'en veut plus et il l'abandonne. Ou l'animal a été offert en cadeau à Noël et ses nouveaux propriétaires n'en veulent plus.
Comment font-ils pour se nourrir, Maëlle ?
Ils doivent trouver leur propre nourriture et un abri où dormir la nuit. Il y a certaines personnes qui mettent quelque chose pour eux, par exemple, une couverture, un petit morceau de nourriture, etc. Et leurs abris sont souvent dans les poubelles ou sous les voitures.
Quelle est l'espérance de vie des chats des rues, Maëlle ?
Les chats des rues sont souvent malades car ils peuvent attraper des maladies, par exemple dans les poubelles. Ils ont une espérance de vie de 5 à 7 ans, tandis qu'un chat domestique vit de 10 à 20 ans. Merci de nous avoir écoutés.
Merci les fées pour cette information. Maintenant, nous ferons plus attention quand nous verrons un chat tout seul dans la rue. Et maintenant, nous allons entendre Luna et Anaï sur les chats noirs.
Anaï, depuis quand les chats noirs portent-ils malheur ?
Au Moyen-Âge, on disait que le chat noir était l'animal de compagnie des sorcières, car la couleur noire est assimilée à la couleur du diable. Cependant, seuls les chats au pelage complètement noir étaient visés. En effet, ils n'étaient pas considérés comme de véritables démons s'ils avaient quelques poils blancs. Luna, est-ce que les chats noirs portent-ils malheur dans tous les pays ?
Non. Les Britanniques pensent que la présence d'un chat noir dans la maison est de bon augure. Pour les Écossais, ils apporteraient la prospérité. Si le chat noir a fait couler tant d'encre, c'est bien parce qu'il est fascinant. Au Japon, on estime que leur présence dans une maison sont de bon augure pour une jeune fille à marier. En Angleterre, dans les Pays-Bas ou en Asie, ils sont respectés. Anaï, pourquoi les chats noirs sont-ils moins adoptés ?
Avec leur pelage couleur d'ébène, ces félins restent encore aujourd'hui les moins adoptés. Les raisons historiques se mêlent désormais à des considérations photogéniques.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci. Donc si on veut adopter un chat, on adoptera un chat. Maintenant, Margot, Gabriel et Roxane vont parler du chat de Roxane.
Bonjour, nous allons vous présenter Roxane, élève de 6e C au collège de Crussol.
Elle va nous parler de son chat.
Qui est ton chat et comment est-il?
Mon chat est Topio, il est noir aux yeux verts.
L'as-tu récupéré ou il est né chez toi?
Je l'ai récupéré.
Comment l'as-tu récupéré?
Je l'ai récupéré grâce à mon parrain qui m'a contacté.
Pourquoi l'as-tu récupéré?
Parce qu'il était maltraité. Les enfants le mettaient dans la piscine, lui couraient après, etc.
Est-ce qu'ils te l'ont cédé facilement?
Oui, ils me l'ont cédé facilement.
Et pourquoi?
Parce qu'ils ne voyaient pas le budget que ça apportait.
Va-t-il bien maintenant?
Oui, il va bien maintenant. Il a peur des humains, mais il est très câlin avec nous.
Maintenant, Mathilde, Mila et Mélina vont vous parler des animaux du cirque.
Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des cirques utilisant des animaux. Mélina, depuis quand cela existe?
Les cirques avec animaux existent depuis le 19e siècle, mais il y a 3000 ans, des défilés des bêtes sauvages étaient déjà organisés.
Mathilde, quand seront interdits les cirques avec des animaux?
Ils seront interdits en 2028 en France. Certaines communes les interdisent déjà, mais il faudra les interdire dans d'autres pays.
Mélina, quelles sont les conditions de vie des animaux dans les cirques?
Ils vivent dans des cages de seulement quelques mètres carrés, alors qu'il leur en faudrait des milliers. Ils sont capturés à l'état sauvage et dressés violemment. Ils ont une vie de tristesse et de frustration.
Mathilde, pourquoi ne pas aller dans les cirques avec animaux?
Les animaux sont souvent punis car ils ne font pas les numéros. Ils vivent dans des cages trop petites pour eux et ils sont parfois enchaînés. Les punitions peuvent être terribles. Ils sont parfois fouettés en public et en coulisses, c'est souvent pire. Si on achète des billets de cirque avec animaux, on soutient ce genre de pratique. Boycottons ces cirques.
Alors pour ceux qui ne connaissaient pas leurs conditions de vie, épargnez-les, merci.
Merci les filles. Maintenant nous saurons que aller au cirque est pas bien pour les animaux. Mais maintenant, nous allons parler des parcs aquatiques avec Chloé et Lina.
Bonjour, nous allons vous parler des animaux marins dans les parcs aquatiques. Est-ce que les parcs aquatiques répondent complètement aux besoins des animaux?
Il existe certains parcs aquatiques où les animaux marins sont dans des aquariums inappropriés à leur taille. Nous rappelons que les animaux sont des êtres qui ont besoin d'espace et de certains soins particuliers appropriés à leur espèce. Les orques, par exemple, ont besoin de 3500 m² à eux seuls et ils ont aussi besoin de compagnie. Dans la nature, un orque peut vivre un siècle alors qu'en captivité, il ne peut vivre que 35 ans en moyenne. Donc la réponse à la question est non. Les parcs aquatiques ne répondent pas aux besoins des animaux, surtout en termes d'espace. Est-ce qu'ils sont maltraités?
Dans certains parcs aquatiques, les animaux marins doivent faire des spectacles devant les visiteurs, ce qui est anormal pour des animaux sauvages, car souvent on les oblige à faire certaines choses en les maltraitant. Les animaux sont des êtres vivants, ils ont des émotions et ils sont sensibles, alors il faut arrêter de les maltraiter comme certains parcs aquatiques le font.
Est-ce que c'est bien d'avoir des animaux en captivité?
Les animaux en captivité sont souvent malheureux, et même si ça se ne voit pas forcément, car ils sont souvent isolés. Mais les animaux sont à la base sauvages et ont besoin non seulement d'espace, mais également d'interaction avec leurs congénères. Il est donc anormal pour des animaux sauvages de se retrouver privés de leur liberté.
Merci.
Merci les filles de nous avoir expliqué ceci. Et maintenant, nous allons passer aux animaux en voie de disparition avec Maïs, Aileen, Émilie et Lola.
On va vous présenter l'ours blanc, l'ailaï, les poissons qui vivent dans la grande barrière de corail, le loup d'Abyssinie, le rhinocéros et le panda qui sont tous en danger. Tout d'abord, combien d'animaux sont en voie de disparition?
Sur les 1057 190 espèces existantes, 44 016 sont classées menacées.
Parmi ces espèces, 41% des amphibiens, 12% des oiseaux et 26% des mammifères sont menacés d'extinction au niveau mondial.
C'est également le cas pour 37% des requins et des raies, 36% des coraux constructeurs de récifs.
Pourquoi l'ours blanc est-il en danger?
Parce que depuis 30 ans, on le croyait à l'abri. Pourtant, il est en danger à cause du réchauffement climatique, de la pollution, de la chasse et sa reproduction est lente. L'ours blanc, encore appelé ours polaire, est la première victime du réchauffement climatique. Le développement de nouvelles activités économiques et la pollution chimique. Cette espèce est un peu à peu ce qui explique pourquoi elle fait actuellement partie des animaux vulnérables et des espèces à protéger.
À quoi ressemble l'ailai ?
L'ailai ressemble à une chauve-souris qui grimpe aux arbres. On dit que cet animal est laid, mais on ne pense pas à sa vie. Il est donc malheureusement en voie de disparition, car son habitat est détruit et les hommes sont violents avec lui.
Et pourquoi les poissons qui vivent encore dans la Grande Barrière de Corail ?
Vous devez sûrement connaître la Grande Barrière de Corail qui est en danger, mais pensez-vous aux poissons qui vivent ? En effet, ils sont en voie de disparition à cause du réchauffement climatique, de la pollution et des dégâts des touristes.
Le loup d'Abyssinie ressemble au loup que vous devez sûrement connaître. Mais pourquoi est-il en voie de disparition ?
En Afrique, plus précisément en Éthiopie, le loup d'Abyssinie est en voie de disparition à cause de la destruction de son habitat par les hommes, du croisement avec les chiens et des transmissions de maladies.
Et pour le rhinocéros, pourquoi doit-on le protéger ?
Parce qu'il reste seulement 27 000 rhinocéros dans le monde, à cause du braconnage. La corne de rhinocéros se revendrait entre 40 000 et 50 000 euros le kilo sur le marché noir, soit plus qu'un kilo d'or.
Pourquoi le panda est-il en danger ? Pourtant, cet animal est très mignon.
Oui, il est très mignon, mais il demeure l'une des espèces les plus menacées au monde. Son habitat continue à rétrécir en raison notamment de l'expansion de zones agricoles et de la mise en œuvre de divers projets d'aménagement qui changent chaque jour, avancent un peu plus. Il ne reste pratiquement plus de parcelles de forêt de bambou.
Merci les filles de nous avoir expliqué ça. Merci à tous de nous avoir écoutés et à une prochaine.